Alors, saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 1, « Recherchez l'amour, ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. » Ici, dans cette phrase, Paul évoque le fait que parmi les phénomènes spirituels, il y ait ce qu'on appelle la prophétie. Vous n'entendez pas ? Mais ce n'est pas un micro, c'est un enregistrement. Donc c'est pour ça que vous allez rien entendre et vous allez tout lire sur mes lèvres, probablement. Alors je disais que Paul évoque parmi les phénomènes spirituels la prophétie. Mais en même temps, lui-même, dans ce chapitre 14, ne donne pas de définition de la prophétie. Alors il nous faut donc aller chercher ailleurs d'autres définitions de la prophétie. Et vous savez que hier je vous en ai donné une, rapidement, alors qu'on trouve en acte 15, verset 32, que j'ai cité cet après-midi, concernant Jude et Silas, où il est dit « Judas et Silas, de leur côté, en prophètes qu'ils étaient, leur apportèrent longuement, de vive voix, encouragement et soutien. » Alors, dans un premier temps, on n'est pas habitué à ce genre de définition de la prophétie selon ce que vous-même définiriez comme prophétie. Parce que la plupart du temps, et c'est juste, vous allez voir, parce que je vais vous donner une autre citation, on entend souvent par prophétie, prédiction, c'est-à-dire annonce de quelque chose qui doit advenir. C'est en général le sens que l'on a à propos des prophéties de l'Ancien Testament, où dans l'Ancien Testament est annoncé, par exemple, pour ce qu'on appelle les prophéties messianiques. Dans le livre d'Isaïe, nous avons un certain nombre de descriptions d'un envoyé de Dieu qui viendra apporter, on va dire, la paix au monde. Un prince de la paix, dirions-nous en Isaïe. Donc les prophètes ont pour but d'annoncer prioritairement à l'origine celui qui doit venir. Donc un but messianique. Bon, ici c'est pas tellement une prédiction que je vous ai évoquée selon les actes des apôtres, c'est un soutien. Donc ça veut dire que le sens prophétique va probablement avoir plusieurs sens selon les orateurs et selon les auditeurs. Alors je vous donne maintenant une autre citation dans les actes des apôtres, au chapitre 11, verset 27-28, qui là nous rapproche davantage de la notion de prédiction. Il est dit « En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, appelé Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner sur le monde entier. » Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Alors, ce qu'il y a bien ici, vous voyez, c'est qu'on nous définit quelque chose de la prophétie en tant que quelqu'un annonce, et en même temps qu'est annoncée une prophétie, il y a une réalisation qui est annoncée. Puisque l'auteur, dans les Actes des Apôtres, nous dit « Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, Agabus, fit alors savoir, éclairé par l'Esprit, qu'une grande famine allait régner sur le monde entier. » Et l'auteur tout de suite nous dit « Elle eut lieu, en effet, sous Claude. » Alors, si on était historien, nous irions chercher dans différents documents et on s'aperçoit que sous le 5e empereur de Rome, entre 451 et 54, il y a des documents qui nous attestent qu'il y a eu effectivement une famine. Alors, ça veut dire qu'ici, on essaye de faire correspondre une annonce dite par quelqu'un qui est dans la foi, qui est ensuite confirmée soit par quelqu'un qui est, on va dire, du groupe des croyants, puisque là, acte, on suppose que c'est Luc, et en même temps, on peut vérifier d'un point de vue historique qu'il y a effectivement quelque chose qui a été perçu par des non-croyants en disant « Ah tiens, il s'est passé à tant d'années un événement particulier que les historiens ont noté. » Alors, quand vous êtes dans un cas de famine, c'est tout à fait le cas, puisque on annonce une famine, c'est confirmé à l'intérieur du groupe dans lequel vous êtes, et en même temps, des historiens disent « Effectivement,